Alors, en introduction, on va s'appuyer sur le psaume 13 des Écritures, écrit par David. Un psaume écrit probablement à l'occasion, à une des occasions où le roi Saül a tenté de le tuer. C'est-à-dire, Saül était encore roi et David avait été oint, mais pas encore. Il n'avait pas remplacé Saül. Voilà. Et ça a duré plus de 10 ans comme ça. Et donc, plusieurs fois, Saül avait essayé de tuer David parce qu'il sentait qu'il y avait une menace pour lui, pour son trône. Et dans ce psaume 13, en 6 versets seulement, David nous donne les clés nécessaires pour répondre à la souffrance, pour ne pas laisser l'amertume s'installer et finir par embrasser la joie et la grâce que notre Seigneur, l'Éternel à l'époque, maintenant nous pouvons mettre un nom, Jésus-Christ, nous offre. Nous allons voir plusieurs témoignages aussi de chrétiens persécutés qui illustrent ce message et peuvent nous inspirer dans notre propre foi. Alors, mettre à part, une fois par an, un dimanche, pour l'Église persécutée, ça nous conduit inévitablement à la souffrance, à la question de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Un chrétien sur 7 qui souffre de la persécution, c'est 360 millions de frères et de sœurs. Victime de discrimination, de violence. Non seulement en fonction de leur foi, mais peut-être simplement parce qu'ils sont catalogués comme chrétiens. Et certains chrétiens n'ont pas vraiment la foi. Mais malgré tout, ils sont quand même victimes de la persécution. Et la Bible ne manque donc pas d'exemples de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu. Peut-être certains d'entre nous, et pas peut-être, certains d'entre nous sont concernés, ici, dans cette salle. Dans la parole, on a vu tout à l'heure l'exemple de Job, 42 chapitres, qui montrent du moment où il a été éprouvé au plus profond de son être, jusqu'à dans son corps, jusqu'au moment où il y a la restauration. Et il y a tout un cheminement, un questionnement. Il y a beaucoup de sentiments. On a vu l'amertume, on a vu le désespoir, la dépression même. Et puis petit à petit, lorsqu'il y a la révélation de Dieu, Job comprend. Et il a grandi entre-temps. Et frères et sœurs, cette souffrance de nos frères et sœurs persécutés, ce n'est pas une souffrance gratuite. C'est une souffrance qui peut se transformer en chemin de croissance. D'autres exemples dans la Bible, Étienne, même si on en parle peu, dans Actes 7, Paul, l'apôtre Paul, là par contre, il a pris le temps dans toutes ses épîtres, et on le voit aussi dans le livre des Actes, de décrire un peu tout ce qu'il a vécu. Dans le chapitre 11 de la deuxième lettre aux Corinthiens, il fait un check-up de tout ce qu'il a pu endurer simplement pour sa foi. Et pour, bien sûr, les œuvres de la foi. L'évangélisation d'une part, mais également tout ce qui émanait de lui et qui ne plaisait pas à ceux qui n'avaient pas cette foi. Alors, à différents degrés et pour différentes raisons, on est tous concernés par la souffrance. Que ce soit la perte d'un proche, la maladie, un divorce, ou des enfants, nos enfants peut-être, qui peuvent s'éloigner de Dieu, de la foi qu'on leur a montrée, lors des enseignements qu'on leur a inculqués. Ça fait partie de notre quotidien, quelque part. Et pour autant, la raison de la souffrance humaine reste toujours une question d'actualité. Depuis que le monde existe, la souffrance est là. Parce que la souffrance, l'origine de la souffrance, c'est le péché. Et tout le monde est concerné, croyant, non-croyant, toute religion. Mais dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui les rejette. Ça, c'est important de distinguer cette souffrance, cette persécution des autres. Bien sûr, la souffrance peut être aussi la cause, du moins la conséquence de nos fautes, de nos péchés, de nos égarements, ou encore parce que nous vivons dans un monde déchu. Et donc, le monde déchu génère la souffrance. N'oublions pas qui est derrière ce monde déchu, le diable. Et ce sera le cas jusqu'au retour de Jésus-Christ, dont on ne connaît pas, bien entendu, la date. Alors, comment affronter la souffrance? Comment nos frères et sœurs persécutés affrontent la souffrance? Ils sont pour nous des exemples. Peut-être un jour serons-nous à leur place dans la persécution. Quelle attitude adopter alors lorsque cette souffrance se manifeste? Comment ne pas sombrer justement dans l'amertume, dans la déception, le désespoir? Parce qu'il y a là une tentation. Tentation de se laisser aller. Tentation du fatalisme. C'est comme ça. Examinons un peu le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublierais-tu sans cesse? Donc le décor, David, le roi David, persécuté sans cesse, pourchassé par le roi Saül, par son armée. Et il écrit ça. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Il se rappelle, David, qu'il avait été loin comme roi. Il attendait de pouvoir le devenir, mais le temps passait. Passait, et rien ne venait. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi, Saül, s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouiront en me voyant ébranlé. Moi, dit David, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. David est au cœur de son épreuve. Mais David avait l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, il a surmonté les sentiments négatifs qui étaient en lui pour faire place à d'autres sentiments comme la joie. Sa foi lui a permis de vaincre ce qui était mauvais en lui. Et il va jusqu'à chanter l'Éternel. Les psaumes, ce sont des chants. Alors oui, jusqu'à quand, Seigneur? Nous avons le droit d'exprimer nos plaintes lorsque nous sommes éprouvés. Et nos frères et sœurs en Christ persécutés le font. Dans les versets 2 et 3 du psaume 13 que nous venons de lire, Dieu épanche donc son cœur. Ça veut dire qu'il parle, il communique. En quatre plaintes, assez directes, qui peuvent même ressembler à une accusation quelque part, mais qui ressemblent d'assez près à ce que nous ressentons nous-mêmes parfois, si nous sommes honnêtes. C'est là la force du livre des psaumes. David exprime ce qu'il a dans le cœur. Il fait sortir quelque chose de lui pour pouvoir trouver un apaisement. Le livre des psaumes, c'est un chrétien persécuté qui parle là. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus, les plus appréciés de la Bible par ces personnes persécutées. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Grâce à David qui les a exprimés devant Dieu, nous avons un modèle qui peut nous servir aussi à exprimer nos sentiments profonds de souffrance et autres devant Dieu. Ne pas craindre de se plaindre honnêtement. Certains pensent à tort qu'ils doivent rester dignes, que la plainte, c'est une marque de faiblesse. Qu'est-ce que dit la Bible ? David se plaint. Et Dieu a permis que ses plaintes soient écrites dans la parole de Dieu. Et c'est une réaction constante chez David, chez Job aussi, qui s'est plaint aussi. Et les autres aussi, même Paul, quelque part, quand il exprime tout, quand il raconte toutes ses souffrances, il attend aussi quelque part un soutien. Il voit qu'il n'a pas toujours le soutien des églises. Alors c'est une plainte aussi. Mais dans l'expression de leur plainte, il y a l'honnêteté. La malhonnêteté, l'hypocrisie, ce serait de dire tout va bien, je gère. L'honnêteté, c'est de dire non, ça va pas. Et voilà ce qui ne va pas. Les personnages bibliques ne cherchent pas à minimiser leur souffrance ou à garder pour eux leur émotion. Ils l'expriment. Ils ouvrent leur cœur. Voilà la dimension profonde. Ils ouvrent leur cœur avec sincérité. Et nous devrions aussi faire la même chose. Job nous dit, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. C'est au chapitre 7, au verset 11, qu'on trouve cette parole. La relation profonde qui unit, qui peut nous unir nous, nos frères et sœurs persécutés, qui unissait tous les personnages bibliques, leur ont donné cette audace de se plaindre devant Dieu parce qu'ils étaient proches de lui. Et qu'il se sentait libre de s'exprimer ouvertement. Encore faut-il identifier et reconnaître les sentiments qui sont en nous. Parfois, on nie notre propre souffrance. Ça fait plus de mal que de bien. Alors, avec ces quatre, jusqu'à quand ? David identifie les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui, tant dans sa situation personnelle que dans sa relation avec Dieu. Donc, il exprime quoi finalement ? Le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde. Le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Ça peut également arriver à tout le monde. Le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. À un moment ou à un autre, on est tous concernés. Et puis, sa crainte d'être maltraité et humilié devant les autres. Et dans la persécution, pour ceux qui ne sont pas, j'allais dire, directement exécutés, ils peuvent être soumis, dans leur souffrance, quelle qu'elle soit, à une humiliation, à des douleurs. Ça peut se voir chez les autres. Et c'est encore un mal-être supplémentaire qui se rajoute. Et puis, la nature humaine, dans la souffrance, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Et donc, on va se sentir seul. Loin de Dieu même, peut-être. Et on va se laisser gagner par le mensonge, que Dieu nous a oubliés. On le voit dans le psaume 13. C'est quoi la solution ? C'est de se rapprocher de Dieu et de sentir par son Esprit Saint qu'il est toujours là. Au Burkina Faso, un jeune, Traoré son prénom, était avec son père lorsque ce dernier a été assassiné par des Peuls. Peuls, c'est une ethnie locale. Et il témoigne. Il dit, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. C'est copie conforme de ce qu'on vient de lire avec Job et avec David. Mais quand je lis la Bible, continue-t-il, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Il s'est tourné vers Dieu, il a entretenu la relation avec Dieu par la prière, il a lu la parole de Dieu qui l'a fortifié. C'est tout. Tout en étant dans la persécution, tout en ayant le poids de la perte de son père et du traumatisme d'avoir vu son père mourir. Et il a exprimé ses sentiments devant Dieu. Donc n'ayons pas peur d'exprimer ses sentiments, de les reconnaître, que ce soit la solitude, que ce soit l'abandon, que ce soit le rejet, la crainte, la souffrance, etc. Exprimons-les à Dieu. Et puis, le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. Notre nature humaine, notre esprit humain a été conditionné à cause du péché dans cette logique. Alors, si nous gardons ces sentiments enfouis en nous, si nous préférons les ignorer ou les cacher à nos entourages, plutôt que de les assumer, c'est comme ça que va se créer l'amertume dans notre cœur. Ces racines d'amertume vont ensuite produire quoi? Les fruits de la colère. Ou l'inverse, ou c'est l'inverse. D'insatisfaction, et on va avoir des conflits avec les autres. Lorsqu'on est rempli de cette amertume, de cette colère, comment être en paix? Donc ça génère automatiquement des conflits. Et les conflits vont encore conduire à plus de souffrance. Donc, cercle vicieux. Qu'est-ce que dit la Bible? Regardez l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit quoi? Au chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. C'est comme un virus, l'amertume. Ça peut se transmettre. Job, encore lui, parle de cette nécessité. C'est pourquoi je ne me retiendrai pas donc. On l'a lu tout à l'heure. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Donc, jusqu'à quand, Seigneur? En résumé, comme David ou comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter, à recueillir nos plaintes, nos émotions. Nous devons être transparents envers. Ça veut dire que dans nos prières, ces prières doivent être vivantes. On vide notre cœur. Ce n'est pas des prières par cœur, sans faire de mauvais jeu de mots. Lorsque nous éprouvons notre souffrance dans la prière, lorsque nos frères et sœurs en Christ persécutés expriment leur souffrance, qu'est-ce qui se passe? Nous rencontrons un Dieu vivant, un Dieu actif dans nos vies. Et ouvrir son cœur et exprimer nos émotions, c'est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec Dieu. Mais également avec notre famille, les membres de notre famille, notre couple, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Alors si c'est valable avec les hommes, pourquoi ça ne serait pas valable avec Dieu? Deuxième étape, regarde, réponds-moi, dit David dans le psaume 13. Nous attendre au secours de Dieu. Ça doit être un réflexe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous savons que nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu pour recevoir un secours. Et dans cette deuxième partie du psaume, David quitte le registre de la plainte pour entrer dans une phase plus active. Il commence à demander. Il exprime ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est quoi? C'est la présence de Dieu lui-même, qu'il ne ressent plus à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de le regarder et de lui répondre. Dans la nouvelle alliance, maintenant nous avons Dieu nous donne son esprit, comme nous dit les actes, à ceux qui lui obéissent. Si nous décidons obéir de tout notre cœur à Dieu, l'Esprit Saint vient en nous et va pouvoir nous parler, nous répondre à nos questions. Et là, David, on peut presque l'entendre crier à l'Éternel pour attirer son regard et obtenir son attention. Il est actif. C'est pas des prières mornes, défaitistes. Non, il crie à Dieu. Eh bien, nos frères et sœurs chrétiens crient à Dieu aussi. Et peut-être qu'un jour, nous aussi, nous devrons crier à Dieu pour ça. C'est comme l'image est celle d'un enfant qui désire plus que tout l'attention de son père. Alors, il ne faut pas chercher à résoudre nos difficultés tout seul. Ça peut être encore une fois un réflexe, comme lorsqu'on se replie sur soi-même. Et avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance du Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. J'ai besoin de toi, dit David. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. Lorsqu'on se retrouve confronté aux difficultés, le danger est de croire que l'on peut ou qu'on doit s'en sortir tout seul. C'est un réflexe humain. C'est l'orgueil de l'homme. Quand je dis de l'homme, c'est aussi de la femme. C'est notre orgueil humain. Et n'oublions pas que nous avons à disposition une grande quantité de ressources, de conseils et de techniques bibliques pour aller mieux. Sauf lorsqu'on décide d'ignorer la souffrance, lorsqu'on la met sous le tapis. Parfois, on va se plonger dans le travail pour oublier, dans les plaisirs, dans les distractions. Mais le cœur, lui, il continue de souffrir. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite vidéo avec le témoignage d'un frère nigérian, donc du Nigeria, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'année dernière, en 2022, lorsque j'étais sur place. Il s'apprêtait à venir en France pour la journée annuelle de Porte Ouverte, l'association Porte Ouverte, à Paris, en région parisienne. Et je vous en dis pas plus.
En train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu, et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayouba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs.
En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père.
Ayouba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils.
Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi.
We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing.
Voilà, bon, c'est quelque chose malheureusement qui est courant en Afrique subsaharienne notamment. Alors, Ayouba, bon, c'est pas son vrai prénom, c'est un jeune. À environ 20 ans. Et le fait d'avoir pu le rencontrer, ça m'a permis aussi de voir un peu la réalité C'est pas simplement une vidéo, c'est pas simplement des écrits, mais c'est quelqu'un qu'on a en face de soi, qui a des traces aussi de persécution. Et parce que c'est pas toute son histoire là. Et donc revenons au moment où il découvre son père mort. Quand Ayuba s'est agenouillé devant le corps sans vie de son père, il a prié ainsi.
Dieu, je suis reconnaissant. Tu as donné et tu as repris. Que mon père repose avec toi.
Alors, ces paroles font bien sûr écho à celles de Job. On voit au chapitre 1er quand il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais pour autant, peu après, parce que la nature humaine est toujours là, quoi. Elle a repris le dessus, cette nature humaine. Et ça a fait naître en Ayuba cette pensée trompeuse. Pour aller mieux, je dois venger mon père et tuer les personnes responsables de sa mort. C'est un réflexe humain. Heureusement, quelque part, une fois que la liste des futures personnes à abattre dont il parle a été connue de la population locale, lui et sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs, ont décidé de quitter non seulement le village, mais aller loin, à environ 8 heures de route, pour ne pas que ceux qui voulaient les tuer, les retrouvent. Mais ça a permis aussi de mettre une distance, pas que physique. C'est beaucoup plus difficile de céder à une tentation lorsque les gens sont loin pour aller les tuer que lorsqu'ils sont tout près. Et un pasteur leur a alors recommandé d'aller dans un centre Shalom, qui était tenu donc par les partenaires de Porte Ouverte, pour recevoir des soins post-traumatiques. Je suis allé dans ce centre aussi. J'ai pu voir ce qui s'est passé. Et l'aide que Ayuba ou que d'autres ont pu recevoir, et reçoivent encore d'ailleurs, ont pu les transformer. Ils ont été accompagnés 3 semaines durant. Et lorsqu'on lui demande quelle est la leçon la plus importante qu'il y a apprise, il répond.
Le pardon.
La clé pour surmonter l'amertume. Les trahisons. La colère. L'injustice. Et donc si avant Ayuba était déterminé à venger la mort de son père, quand il est arrivé au centre, il a commencé par déposer le couteau qu'il portait sur lui. Parce qu'on lui a fait comprendre que c'était déjà pas la solution. Il a accepté de le faire. Et au terme des 3 semaines de formation post-traumatique, voici comment il termine son témoignage.
Lorsque je suis arrivé ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner à l'homme qui a provoqué la mort de mon père. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec cet homme. Si nous nous rencontrons, nous nous saluerons. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serai toujours blessé et que je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Dieu m'a amené ici pour me guérir.
Vous remarquerez qu'il y a un choix ici. Un choix. Le pardon ne vient pas tout seul, ne tombe pas du ciel. Le choix de laisser tomber la colère. Le choix d'avancer sur un chemin de rédemption. Rédemption psychique. Et quelque part, rédemption spirituelle. Parce que le pardon, l'absence de pardon nous coupe de Dieu. La colère, l'amertume, le ressentiment nous coupent de Dieu. Parce que ça constitue un péché devant Dieu. Mais là, les émotions, les sentiments étaient tellement puissants qu'il fallait vraiment la présence de l'Esprit Saint pour aider Ayuba, aider aussi avec des personnes qualifiées pour accompagner ces personnes traumatisées. de pouvoir finalement surmonter les traumatismes. Mais il y a un moment, la leçon à retenir, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de lui demander de l'aide, comme David l'a fait dans le psaume 13, et comme d'autres l'ont fait. Sinon, la nature humaine prend le dessus, et le mal va répondre au mal. Donc, ça veut dire entretenir une relation avec Dieu. Pas simplement quand ça va mal, mais également quand ça va bien, pour pouvoir mieux répondre quand ça va mal. Ensuite, demander l'éclairage de la vérité. Alors, ça veut dire quoi? En revenant au psaume 13, après avoir cherché la présence de Dieu, David demande à Dieu, quelque part, lui donner la lumière devant ses yeux. Pourquoi la lumière? Parce que colère, animosité, ressentiment, amertume, c'est comme si on avait des ténèbres devant les yeux. Et plusieurs idées sont associées à cette notion de lumière. Grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que la perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. Deuxièmement, la lumière est un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Et les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme, on voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Obtenir la lumière dans les yeux projette une image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse, comme Dieu veut que cela se passe en nous. Mais pour ça, il faut la lumière de Dieu. La lumière de Dieu qui va chasser les ténèbres. L'amour, la joie, le fruit de l'Esprit-Saint. Il faut laisser l'Esprit-Saint pénétrer nos cœurs pour pouvoir surmonter tout. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Romains. Ayouba l'a vécu aussi. Le pire est arrivé. Job, le pire est arrivé. Paul a subi aussi des choses jusqu'à finalement être exécuté lui aussi. Examinons un autre passage de la parole. Éphésiens chapitre 1. Il nous dit quoi? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La voilà la lumière, elle est là. Qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Une promesse, une condition. Pour que la promesse s'accomplisse, il nous faut la foi pour que notre cœur soit illuminé. En d'autres termes, nous sommes encouragés à demander la lumière de Dieu pour avoir sa perspective, qui est parfaite, sur notre situation. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension de Dieu. C'est l'intelligence spirituelle, c'est le discernement que Dieu nous donne alors. La lumière qui va chasser nos ténèbres dans notre cœur, dans notre esprit, et de pouvoir garder l'espérance au cœur même des épreuves que nous vivons. On a lu tout à l'heure, ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la mort, c'est quelque chose qui peut être très parlant pour certains, effrayant pour d'autres. Et là, on ressent l'inquiétude de David de glisser dans le vide du désespoir ou de la dépression. La mort, c'est la mort de l'âme. Et lorsqu'on est en pleine dépression, on n'a parfois même plus la force de prier. Du tout. Et on n'a même plus la force ou l'envie de lire la parole de Dieu. Donc on se coupe de Dieu. Si on se laisse glisser lentement ou sûrement dans cette dépression. Sans la lumière de Dieu, la lumière de la vérité. Et la lumière de la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu pour nous éclairer. tel un phare qui perce la brume du désespoir. La navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume n'est pas simplement difficile, elle est dangereuse. Notre salut peut en dépendre derrière, si on quitte le chemin qui mène à la vie éternelle. Sans la lumière qui donne vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. C'est ça ce que David veut dire ici. Et ça peut nous tous nous concerner. Pas parce qu'on est chrétien qu'on est... Non. Je vous propose un autre témoignage. Celui de Marie. Marie, alors c'est un pseudonyme encore une fois, elle avait 20 ans lorsque des militants religieux ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait au moment d'un culte. Elle a été enlevée, elle a été retenue captive pendant 54 jours. Elle a subi des violences, toutes sortes de violences, je ne rentre pas dans les détails. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture pour animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu au cœur même de sa détention. Et avec les autres femmes, elle n'était pas toute seule, détenue bien sûr, qui était détenue à ses côtés. Donc il faut bien s'imaginer le contexte. Coupée de chez soi, dans la peur, dans le traumatisme, et sans savoir quand est-ce que cette épreuve va se terminer. Et donc, là, je vous propose d'écouter son témoignage.
Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête, et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu.
Un jour, l'un des tortionnaires, de ceux qui les détenaient, est venu s'asseoir à côté d'elle. Et elle a eu le courage de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait.
Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites.
Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le courage de cette femme, en plein cœur des circonstances qu'elle vivait, d'aller vers les persécuteurs qui étaient à côté d'elle, de risquer peut-être plus, simplement en lui posant des questions. Elle a été plus loin, elle a partagé l'évangile avec encore d'autres de ses ravisseurs. Même face au danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que dans sa tête, elle se disait, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Bon, ce n'était pas des enfants de cœur qu'elle avait en face d'elle, donc le cœur n'était pas ouvert, ils n'ont pas été réceptifs. Mais malgré tout, Marie priait pour eux. Elle est restée fidèle dans sa relation avec Dieu au plein cœur de l'épreuve.
J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là.
Et les prières de Marie ont été exaucées?
Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvée et m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées.
Vous voyez ? Si ces prières-là, au cœur de la souffrance, ont été exaucées, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle a resté fidèle dans sa relation avec Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'elle soit éprouvée au-delà de ses forces. Et non seulement elle, mais les autres personnes, les autres femmes, ont bénéficié de la prière de Marie, elles ont été libérées. Bon. Pour autant, il y avait la douleur du traumatisme qui était présent. Mais Dieu lui a permis de surmonter cette douleur, sans l'effacer comme ça d'un coup de baguette magique, non. Elle a été aussi à ce centre de soins post-traumatiques. Je me demande si je ne l'ai pas rencontrée le même jour qu'à Yuba, puisque c'était le dernier jour de la quatrième session 2022 de ces soins. Il y avait un groupe de 11 femmes qui nous ont raconté, une après l'autre, ce qu'elles avaient vécu. Et une de ma mémoire, c'est vrai que ça se ressemblait un peu tous, mais il me semble que ça correspond à cette personne-là. Bon. Malheureusement, toutes les histoires des chrétiens, j'allais dire persécutés, ne se terminent pas tous bien. J'ai appris que Marie est morte quelques temps plus tard, de complications liées à une intervention chirurgicale suite aux sévices qu'elle a subis. Mais on a quand même cette histoire. Et elle-même, avant sa mort, et sa famille ont voulu que cette histoire soit entendue. Parce que il y a beaucoup de ce genre d'histoire qui reste cachée. Et elle a exprimé, comme David, ce qu'elle voulait. Il y a eu une libération qui s'est produite parce qu'elle a exprimé ses sentiments. Elle a osé ne pas cacher ce qui était une honte pour la plupart des gens qui subissent la même chose. Le problème de la honte. Elle a transcendé cette honte. Et ça peut aussi, et ça a donné le courage à d'autres personnes de se lever en entendant cette histoire, pour aller continuer d'évangéliser, même les populations peules qui sont à l'origine de cet enlèvement et de ces exactions qui se déroulent toujours aujourd'hui au Burkina Faso, au Nigeria, bref, dans cette partie du monde. Personne ne doit être confronté seul à la persécution et au traumatisme. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons un rôle à jouer. Ce rôle, il commence déjà dans la prière. Donc là, on est dans la partie, on remonte. « Moi, j'ai confiance en ta bonté », nous dit David. « Trouvez notre joie en Dieu ». Et là, il y a un contraste. Comment est-ce possible de passer d'une situation aussi dramatique à quelque chose d'aussi beau, la joie. La joie que d'autres ont ressentie, David, Job, etc., lorsqu'ils ont compté sur Dieu pour les relever et que Dieu les a relevés, frères et sœurs. On pourrait dire, mais... Oui, mais le psaume, il a été écrit après la souffrance. C'est facile d'écrire après, une fois que ça va mieux. Non. Il a été écrit au moment. David, c'était au moment où il le vivait. Et c'est au cœur même de son épreuve qu'il a été capable de l'écrire. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'éternel, en l'honneur de l'éternel, car m'a fait du bien. Vous voyez, frères et sœurs, là, il y a quelque chose de transcendant. Alors, je vois que le temps tourne. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la joie, mais on peut quand même penser à chanter lorsqu'on en est éprouvé, quel que soit le type de nos épreuves. Et c'est une des manières pour nos frères et sœurs persécutés de tenir ferme dans l'épreuve de la persécution. Ils chantent. Même si parce qu'ils chantent, ils sont encore plus persécutés. Parce que c'est un chant que Dieu agrée et qui produit la joie. Fruit de l'Esprit Saint. Bon, j'avais un autre témoignage, ce sera pour une prochaine fois. Bah oui, c'était long, quoi. On va passer à la conclusion. Qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies, finalement? Qu'est-ce qui nous aide à dépasser la souffrance pour rester dans la joie? Pour accéder à la joie, peut-être? C'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour notre prochain, c'est notre amour pour nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. C'est notre amour même pour notre ennemi. Matthieu 5. C'est un des moyens de surmonter la persécution. Et pour cela, nous devons nous encourager. Et là, j'insiste, nos frères et nos sœurs en Christ, persécutés, comptent sur nos prières, comptent sur notre soutien d'une manière ou d'une autre, pour les aider, eux, dans leurs épreuves, à surmonter ce qu'ils vivent actuellement. C'est un... Les encourager, je vous donnerai un moyen de le faire, derrière sur les tables, vous aurez des petites feuilles, alors des feuilles de papier avec des feuilles d'arbres dessinées, et je vous invite à écrire une prière ou écrire un verset biblique. Bon, si possible en anglais, sinon en français, parce que le Nigeria est un pays anglophone, il y a une partie qui va aller au Nigeria et une partie qui va aller en République démocratique du Congo. Donc ça va être envoyé là-bas pour que les personnes sur place voient qu'on prie pour eux, qu'on pense à eux. C'est tellement important pour eux. Encore un verset biblique. L'épître Paul aux Philippiens qui nous dit « Je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Les épreuves que vivent nos frères et sœurs, elles ne sont pas là par hasard, même s'ils donnent parfois leur vie pour cela. En effet, dans tout le prétoire, à l'époque, lors du jugement de l'apôtre Paul, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi il y a la persécution. Bon, ça c'était Awel. Tant pis. La prière de midi d'Iba, je voulais quand même vous la faire lire. C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme ou une telle femme. J'avais prévu un temps de prière pour l'église persécutée. Alors, je veux retenir personne. Que ceux qui ont des obligations puissent partir. Je voulais faire juste une petite annonce. Donc, vous avez eu, je pense, la plupart d'entre vous par mail deux documents par rapport à l'église persécutée cette semaine. Nous sommes le 12 novembre. Porte ouverte et d'autres associations en faveur des chrétiens persécutés ont décidé de commencer aujourd'hui une campagne de prière de 4 ans en faveur de l'Afrique subsaharienne. Ces campagnes commencent par une semaine de prière, du 12 au 19 novembre. Je vous invite à aller sur le site de Porte Ouverte si vous voulez avoir les sujets de prière. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit bien sûr, et vous les recevez. Vous avez donc les petites feuilles là, donc vous pouvez en prendre pour ceux qui en veulent, les remplir et les ramener la semaine prochaine. Vous les déposez à nouveau sur la table, moi je les récupérerai et je les enverrai ensuite au siège de Porte Ouverte pour qu'ils les envoient à leur tour à celles et ceux qui en ont besoin. Avant de nous quitter, pour ceux qui ne pourront pas prier, je voulais vous remercier. Merci pour chacun d'entre vous qui prie déjà, qui aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit par vos dons, que ce soit par vos encouragements. Il y a 10 ans, un chrétien sur 9 était persécuté. Aujourd'hui, un chrétien sur 7. Demain, dans 10 ans, un chrétien sur 5, sur 3. Serons-nous dans le lot? Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, qui peut le dire? Donc, vraiment, S'il vous plaît, prenez à cœur tous ces frères et ces sœurs, 360 millions dans le monde. Priez pour eux et Dieu vous bénira d'une manière ou d'une autre. Bon dimanche à tous et à tous, à toutes et à tous. Et voilà, moi je reste avec celles et ceux qui veulent prier pour nos frères et sœurs.